Nous allons continuer à explorer les propos de Gillian Ware, je le rappelle, des propos qui ont été édités dans l'orgue francophone en 1987, réflexion sur l'orgue classique et son esthétique. Dans la deuxième partie de l'article de Gillian Ware, nous abordons le problème de l'orgue de concert et du répertoire qui peut être joué sur ces instruments. Alors voilà ce que dit Gillian Ware. Comme je l'ai déjà dit, les préludes et fugues de Bach relèvent essentiellement du style de la musique pour cordes et d'une inspiration séculière. Mais je pense que les préludes de chorale et autres œuvres mineures ne se prêtent pas au vaste espace d'une salle de concert moderne. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont pour base une tradition religieuse peu familière à la plus grande partie du public, mais parce qu'il s'agit aussi d'une question de perspective et d'ambiance. Le caractère intime d'un morceau de ce genre est tout aussi déplacé dans une grande salle de concert que l'exécution d'un quatuor pour cordes dans un immense auditorium. À l'occasion d'un concert d'orchestre dans une vaste salle, nous sommes en droit d'entendre une symphonie dans toute sa dimension ou son équivalent. Et je pense qu'il en est de même pour un concert d'orgue dans des circonstances analogues. Cette considération doit être prise en compte quand il s'agit de décider du style de l'orgue à construire dans un tel lieu. Récemment, j'ai joué dans de nombreuses et nouvelles salles de concert dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord, où l'on s'est efforcé d'intégrer avec difficulté les principes de la musique strictement baroque et les exigences de l'espace. Les résultats ont été singulièrement décevants. Les tuyaux de menue taille s'opposant généralement à une bonne propagation du son dans la salle, notamment en opposition à l'orchestre symphonique. Pour remédier à cette situation, on ajoute d'abord des mixtures, escomptant des effets de brillance et d'intensité. Il en résulte un désaccord de plus en plus marqué, aggravé encore par le système bien évidemment de chauffage et de conditionnement d'air dans une salle de concert moderne. Alors, Gillian Ware continue avec l'orgue classique. L'orgue classique n'a jamais été conçu pour se projeter dans un local de 5000 places, ou même la moitié, sans l'aide d'une acoustique particulièrement résonante. Fait plus important, le génie de sa musique ne consiste pas à assourdir l'auditoire. Or, ce besoin de le faire est une caractéristique essentielle du répertoire symphonique. Encore une fois, il ne s'agit donc pas d'assommer l'auditoire par des trompettes claironnantes et stridentes, mais de l'atteindre et de l'envelopper dans un milieu sonore harmonieux au son fondamental équivalent à l'effet des cordes d'un orchestre symphonique. Une autre considération subtile est celle du rapport entre une forme d'art et une autre, sujet qui me fascine. On voit se refléter l'envoi de la ligne mélodique et les volutes phrasées d'une grande œuvre musicale dans les proportions d'un bel édifice destiné à accueillir des idéaux d'une même ampleur. Alors, Gillian Ware parle avec beaucoup d'intérêt donc de la présence des orgues dans une salle de concert. Cela nous ramène à la force religieuse de cet instrument, notamment en Alsace, au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. À cette époque-là, pas d'orgue dans les salles de concert. Et donc, pourquoi construisait-on ces orgues? Nous l'avons déjà évoqué, il y avait bien sûr la raison culturelle, également la raison économique, mais nous n'avons pas finalement parlé de celle qui pourrait paraître la plus importante, la raison religieuse, car les instruments, avant tout, comme on vient de l'entendre dans cet article, sont dans des églises, et la musique qui a été composée est une musique profondément religieuse. Alors, pour citer un exemple alsacien, dans le très beau livre de Claude Muller, l'Alsace au XVIIIe siècle, eh bien, les chanoines du chapitre de Wissembourg sont en train, je cite, de s'embourber dans leur affaire d'orgue, car ils ont voulu construire un orgue extrêmement important pour leur collégiale, et ils n'arrivent pas à payer, ils n'arrivent pas à suivre le chantier, et donc demandent l'aide de leurs supérieurs pour essayer de se tirer de cette affaire. L'orgue qui va naître de cet immense chantier à Wissembourg, c'est le plus grand Louis Dubois d'Alsace, un immense instrument avec montre de 16 en façade, orgue classique français par excellence, qui compte parmi les orgues les plus importants et les plus attachants de notre région. Il est donc très important de voir qu'au XVIIIe siècle, l'orgue est instrument d'église. Il l'est également pour les fidèles et non pas que pour le clergé, car lorsqu'ils rentrent dans l'Église, notamment au XVIIIe siècle, il faut bien avoir à l'esprit qu'ils ne voient pas le cœur. Beaucoup d'églises ont un jubé, ou alors sont murées et ils ne voient que la nef. Ils n'ont pas accès au maître-autel, ils n'ont pas accès à toute la symbolique religieuse du XVIIIe siècle. Et donc, la principale chose qu'ils voient lorsqu'ils rentrent dans une église, c'est l'orgue. L'orgue est instrument divin et signe divin et symbole divin, plus que le maître-autel qui est très lointain derrière ses grilles fermées. Et donc l'orgue a une importance religieuse très forte durant ce XVIIIe siècle. On se rend compte au XIXe siècle que c'est toujours le cas, notamment lors des crises frumentaires de la première moitié de ce siècle, où comme les cloches, l'orgue est un instrument sonore, il est là pour appeler Dieu à l'aide, pour appeler les saints et les intercesseurs au secours de cette population qui est dans la pauvreté et qui essaye de se débattre face à ces mauvaises récoltes successives. Mais au XIXe siècle, en plus de cet aspect religieux, se greffe l'aspect économique dont on a déjà souvent parlé, c'est-à-dire l'importance pour ces communautés de se faire valoir à travers le nombre de cloches, mais aussi la grandeur de l'orgue. Et puis nous arrivons en 1875, et c'est ce que nous rappelle un article paru dans les clés de l'OPS il y a peu. 1875, c'est l'Opéra Garnier, et c'est la première fois qu'une salle de concert est plongée dans l'obscurité pour l'interprétation de concerts symphoniques. Et c'est à partir de ce moment que naît une véritable religion, un véritable cérémoniel du concert. C'est extrêmement intéressant car c'est également à la même époque, notamment en Alsace, que la ferveur religieuse est en train considérablement de chuter. Il y a de moins en moins de fidèles à la messe. L'idée du culte régulier commence à s'effriter. Et donc, c'est comme si on observait une translation de la religion de l'intérieur de l'église pour la musique à l'intérieur de la salle de concert, avec finalement tout un rituel qui se met en place et qui se codifie à la fin de ce 19e siècle. Alors, est-ce pour ça qu'à cette époque, l'orgue commence véritablement à perdre de son importance à la fin du 19e siècle et la musique symphonique parallèlement prend son essor? On peut le penser, puisque les facteurs qui ont finalement été à l'origine de l'importance de l'orgue en Alsace, c'est-à-dire le facteur religieux et le facteur culturel, sont en train de quitter l'église pour aller dans la salle de concert. Et donc l'orgue peut-être est le premier à pâtir de cette situation.
Thank you. Thank you.
Nous venons d'écouter le concerto pour orgue en sol mineur, opus 4, numéro 1 de Handel, interprété à l'orgue par Lorenzo Guelmi et l'ensemble La Divina Harmonia. Alors Lorenzo Guelmi, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Merci beaucoup d'être venu dans les studios d'Accent 4 pour nous parler de deux compositeurs dont on fête l'anniversaire cette année en 2009, à savoir George Friedrich Handel, 250e anniversaire, et ensuite Joseph Haydn, dont on fête le bicentenaire de la mort. Alors, pour les auditeurs, ils peuvent tout de suite se demander, tiens, on parle de Handel et de Haydn, mais avec l'orgue, quel est le lien entre l'orgue et ces compositeurs? Qu'est-ce que ces compositeurs ont écrit pour l'orgue, finalement?
Alors, Handel, on sait qu'il a été un très grand organiste. Il a improvisé vraiment. Quand il a été à l'Italie, il a eu aussi des duels, si on peut dire comme ça, avec Domenico Scarlatti. Et on dit qu'au clavecin, Scarlatti a été très bien, presque mieux. Mais à l'orgue, il n'y a pas de doute que Handel a été vraiment incroyable. Et on sait aussi que dans sa jeunesse, il a joué à Halle, il a joué l'orgue. Mais la chose qui a fait célèbre Handel pour l'orgue, c'est qu'on peut dire qu'il a inventé les concerts pour orgue et orchestre. C'est-à-dire qu'il a pris un peu l'inspiration de la musique de Corelli, de Concerto Grosso, mais il a substitué les concertinos, c'est-à-dire les deux violons et le violoncelle soliste, avec l'orgue, qui lui-même a joué. Et on sait aussi qu'il, très souvent, il a complètement improvisé son solo. Il a donné qu'il y a un petit signe à l'orchestre quand il faut rentrer. Aussi, les concerts qu'on va écouter, il commence par un solo où, en vérité, dans la partition, il a écrit que ad libitum. Et c'est l'organiste, c'est-à-dire, dans ce cas, a été moi, qu'il faut improviser en cadence, un petit solo, et après donner un signe pour l'orchestre. Rentrer encore une fois.
Alors justement, puisqu'on est sur Handel, donc c'est un disque passacaille, en France en tout cas, quand on pense aux concerti de Handel, on pense tout de suite à une interprète, à Marie-Claire Alain, chez Erato, qui a enregistré, qui a finalement fait redécouvrir au grand public ces concerti de Handel. Alors, quand il y a justement, notamment en France, des grands noms de l'orgue qui ont enregistré cette musique, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces enregistrements?
C'est-à-dire que si je vais réfléchir dans ma vie, une des disques plus importantes qui a vraiment fait que je deviens passionné pour l'orgue a été Carl Richter, les concertos de Handel. Et quand même, quand j'ai enregistré cette concerto l'an dernier, après que j'ai tout travaillé, j'étais prêt de enregistrer, j'ai écouté encore une fois cette disque de Richter et je trouve, excusez-moi, presque incroyable que je suis devenu passionné par l'orgue à travers ce disque, parce que maintenant je trouve que l'interprète c'est magnifique, mais les orgues qu'on a utilisés ont été affreux, vraiment, tempérés égales, avec des mixtures complètement désaccordées, oui. Je veux dire. Alors pour moi, la première chose à donner, c'est la qualité de l'orgue que je vais utiliser, que ce n'est pas un petit orgue de coffre. Handel a utilisé pour son concerto à London, il a utilisé un orgue petit, mais quand même avec un montre 8 pieds en métal dans la façade. Et l'orgue que j'ai choisi, c'est un orgue qui a un clavier, mais qui a 3 8 pieds, un montre, un rohr flûte 8 pieds et un viol de gamme, et 2 4 pieds en octave en flûte. Et alors, si on utilise des sonorités, je peux dire un peu sombre, on peut vraiment se mélanger avec la sonorité des violons, de l'orchestre, on peut donner, comment dire, une synthèse sonore beaucoup plus forte. Je trouve presque tous les enregistrements que j'ai écoutés, pour moi, la première chose qui je veux, excusez-moi, un peu critiquer, ce sont pas l'interprète, qui parfois sont magnifiques, mais c'est quel orgue on a choisi pour enregistrer. Sont ou des orgues très modernes ou des orgues très petits, un peu brillantes, qui ne font pas un mélange avec la sonorité de l'orchestre.
Alors, une autre question par rapport à ces concerti, justement, donc Handel qui invente le concerto pour orgue, comme on l'a dit auparavant, l'orgue dans l'église, l'orgue instrument religieux, mais alors finalement, Est-ce qu'on peut émettre des hypothèses? Pourquoi est-ce que Handel va inventer le concerto pour orgue? Et aussi, quand est-ce qu'on jouait un concerto pour orgue à cette époque-là?
Oui, la question c'est pas une hypothèse, c'est très clair. Hein? Alors, Handel, dans la dernière partie de sa vie, il a pris l'opéra italien, qui a été pour lui toujours une question aussi économique, a été beaucoup investi dans sa vie pour chercher les meilleures chanteuses dans l'Italie, comme ça, et puis, excuse-moi, aussi pour faire de l'argent, pour gagner sa vie à Londres. Alors, il a eu vraiment un débâcle parce que il a eu une autre opéra à Londres. Alors, il a mis en scène cet oratorio, ce sont des histoires de la Bible, qui était beaucoup moins cher parce qu'il n'a pas de scénographie, il n'a pas comment on dit, de théâtre, de costume, il n'a que de la musique, quand même qu'il a été exécuté dans le théâtre. Et aussi là, c'est toujours pour lui une question d'être concurrence avec les autres choses qui sont passées à Londres dans le monde de la musique. Excusez-moi, une petite parenthèse, je m'excuse, mon français, c'est un peu épouvantable.
Non,
Je
non, non.
parle plutôt italien traduit,
Oui.
j'espère que vous comprenez quand
Oui.
même. Alors, dans une saison, 1737, il y a eu à Londres, Farinelli, le célèbre castrato, qui l'a fait en très forte concurrence à les oratorios qu'Handel lui-même il a organisé. Alors il a cherché d'avoir des chanteuses si célèbres, mais c'était trop tard. Et alors il a pensé, qu'est-ce que je peux faire? Je peux offrir moi-même comme une star, parce que son improvisation a été si célèbre. Et alors il a pensé, j'ai fait pendant les oratorios comme entracte des concertos où j'ai fait des improvisations avec l'orchestre. Et ça a été vraiment un coup de génie parce qu'il est devenu très très célèbre pour ces choses-là. Et tout le monde est encore une fois allé écouter cet concert, cet oratorio, où dans les entractes on eu lieu cet concerto d'orgue. Et c'est devenu un mode si fort qui très tôt il y a eu des imitations. Il y a beaucoup de compositeurs anglais ou italiens qui vivaient à Londres, qui ont écrit des concerts pour l'orgue et l'orchestre, qui sont toujours écrits dans cette façon handelienne, on peut dire comme ça. Et l'orgue était un orgue de théâtre, et on peut dire qu'il a resté un lien, comment dire, une liaison entre la musique sacrée et cet concerto parce qu'on a été exécuté dans le cadre des oratorios, mais quand même, on a exécuté dans un théâtre.
Oui. Alors, par rapport à l'influence de ces concertos, il y a ceux de Handel. Comment est-ce qu'on peut placer ceux de Jean-Sébastien Bach pour clavier par rapport à
Oui,
Handel?
là, sont un peu similaires à l'origine, c'est-à-dire si on va regarder le concerto pour le clavecin, on voit que la plupart ont été écrits avant pour les violons, ou pour deux violons, et ont été réadaptés, un peu comme Handel utilise la forme du concerto instrumental de Corelli, il va substituer les deux violons avec l'orgue. Et aussi là, était une question pratique chez Bach, parce que il a eu cet Collegium Musicum chez le Café Zimmermann, et il faudrait proposer de la musique avec des solistes, mais qui a été le soliste plus valide à Leipzig, a été lui-même, et son enfant, Carl Philipp Emanuel Wilhelm Friedemann, et il voulait aussi donner un profil artistique à son enfant, et alors il a transformé des concerts pour violon avec l'instrument à clavier comme soliste.
Dernière question par rapport à Handel, c'est la question justement de l'improvisation dont vous avez parlé. Donc sur la partition, il est marqué ad libitum. On a par exemple une version antérieure de Handel par Ton Koopman où il explique bien comment est-ce qu'il essaye d'improviser dans le style de Handel. Comment vous avez abordé cette notion d'improvisation?
Ah, oh, je pense qu'il faut vraiment beaucoup lire de répertoire, c'est-à-dire avant de enregistrer, j'ai passé pas mal de temps à lire des sonates pour instruments mélodiques, les sonates pour la flûte, les sonates pour le violon, les triosonates, et chercher de trouver, comment on dit, des morceaux qui on peut comprendre vraiment la langue. Et en plus, je trouve il faut toujours laisser un petit peu l'inspiration au moment. Très souvent, j'ai enregistré cette petite cadence dans des versions différentes, et après j'ai choisi pendant l'editing qu'est-ce qui a été mieux, qu'est-ce qui a été plus intégré. Et je pense que vraiment c'est une question de bien improviser dans le style, de bien connaître le répertoire, pas seulement le répertoire d'orgue.
Thank you. Thank you.
Nous venons d'écouter le concerto pour orgue de Joseph Haydn en Ré majeur au Bocken 17 numéro 2, interprété par Lorenzo Guelmi et l'ensemble La Divina Armonia. Alors maintenant justement passons de Handel à Haydn, dont on fête le bicentenaire cette année, autre grand compositeur très connu de la musique classique, qui a composé ses concerti pour orgue. Alors, est-ce que Lorenzo Guelmi, vous pouvez nous parler de ces concerti et surtout de la place qu'ils occupent dans l'œuvre de Haydn?
Oui, alors c'est vrai que quand on pense à le grand compositeur classique, Haydn, Mozart, on pense tout de suite au clavier et pas à l'orgue. Et c'est curieux parce que, par exemple, Haydn, il n'a pas joué de clavier jusqu'à un certain âge. Avant, il a joué plutôt le clavecin. On sait que chez les Esteras, il est arrivé plutôt tard de le clavier. Et aussi, on sait que Mozart et Haydn ont beaucoup joué de l'orgue, ont beaucoup improvisé à l'orgue. Mozart, il est connu par toute l'Europe, parce que dans les voyages, il a toujours joué l'orgue, et l'Europe, c'est plein des orgues joués par Mozart. Quand même, on n'a pas de page vraiment de musique vraie d'orgue. Les choses d'orgue aussi de Mozart qui en joue maintenant sont des choses qu'il a écrites dans les dernières années, plutôt pour une orgue automatique qui vraiment peut jouer de l'orgue comme interprète. Haydn, on a quelques concertos pour l'orgue, mais c'est aussi là très souvent un peu pas clair, parce que une de ces concertos ont survécu aussi dans des sources qui va donner comme instrument soliste plutôt le clavecin que l'orgue. Le problème est que dans le style classique, la façon de jouer l'orgue est déjà très similaire à la façon de jouer le clavecin. On n'utilise pas la pédale, on a très souvent une texture très simple à deux voix, on a très souvent des figurations rythmiques à la main gauche qui sont très proches de ce qu'on écoute dans les sonates pour le clavecin ou pour le clavier. C'est une façon de simplifier l'écriture qui ça bien correspond à le style aussi de l'architecture, très symétrique, très simple à comprendre, très solaire. Quand même, on peut observer que beaucoup de ces concertos sont conservés dans les archives des couvents, et on sait que jusqu'à la réforme de Joseph, l'impérateur Joseph, on a beaucoup joué de la musique instrumentale dans l'église, et on peut bien dire que beaucoup des symphonies de jeunesse de Haydn ont été aux premières exécutées dans le lieu de la liturgie et pas dans les salles de concert. Après, quand même, on a transformé beaucoup de compositions qui sont nées comme des concertos à l'orgue, joués à l'épître, comme les sonates pour l'épître qu'on connaît de Mozart, ont été transformées simplement avec substituant l'orgue avec le piano ou avec le clavecin, comme des concerts joués aussi au salon, au théâtre. Et je trouve, c'est le cas de le concert en ré majeur qu'on va entendre, on le peut bien jouer aussi au piano, au clavecin, mais alors que quand même, il reste quelque chose qui je trouve, pour moi, c'est vraiment un esprit un peu différent, quand même que je pense que dans cette musique-là, il n'y a pas un sentiment de musique sacrée. Mais je trouve que très souvent, j'ai joué il y a 2 mois la Thérésienne Messe de Haydn. On ne peut pas dire qu'il y a un sentiment de sacré comme on peut trouver chez Palestrina, chez Bach, chez cet compositeur. Je trouve une religion beaucoup plus humaine, beaucoup plus mondaine parfois. Et on dit toujours que Haydn, c'est un compositeur heureux, c'est un compositeur solaire. Et je trouve, peut-être on peut voir une façon d'être religieux, excusez-moi, je peux dire très catholique, où on ne va pas dire, je m'abstiens de voir les plaisirs du monde, mais j'ai beaucoup de goût à vivre le monde. Et c'est un peu qu'est-ce que ça passe dans cette concerto. On l'écoute et on peut voir l'architecture blanche de le palais de Vienne. Dans la couverture de cette CD, il y a une sculpture de Canova. Je pense que c'est un peu le même esprit.
Alors, il y a aussi une question importante par rapport à l'orgue, à la musique d'orgue. C'est qu'on a énormément d'œuvres pour cet instrument, donc jusqu'à Bach, bien sûr, 1750. Et ensuite, on a l'impression que ces compositeurs classiques se désintéressent de l'instrument à tuyaux. On a le grand creux du début du 19e siècle, et puis il faut attendre Mendelssohn pour voir revenir les grandes œuvres pour orgue. Alors, ces instrumentistes, donc Mozart, Haydn, étaient tous grands improvisateurs. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient improvisateurs qu'ils ne voyaient pas l'intérêt d'écrire de la musique pour orgue, ou y a-t-il d'autres raisons?
Je pense que c'est plutôt une question, excusez-moi encore une fois, un petit peu économique, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire, si on a composé des sonates pour le piano, on a édité ça, on a vendu ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a cherché cet instrument qui a été très fort à la mode dans la société bourgeoise qui commençait. Et quand même, les organistes ont été un peu plus poussés en bas par toutes les réformes, et après Napoléon, c'est presque fini. Et alors, dans les régions catholiques, il est resté que les régions luthériennes, où l'orgue a été toujours si importante comme le pasteur. Et là, ça remonte à travers Mendelssohn. Et après, il arrive encore l'orgue à la France, mais c'est la transcription de la symphonie, c'est dans les salles de concert, on peut dire, c'est Widor, Vierne ou César Franck, mais quand même, qu'il a réimporté encore une fois dans l'Église cette idée symphonique. Et pour les périodes classiques, je trouve aussi, il y a un peu le grand erreur de penser que beaucoup de musiques qui on voit et on dit ah, c'est musique pour le clavecin, c'est musique pour l'orgue, c'est pas vrai, a été c'est pas musique pour l'orgue, c'est pas vrai parce que on a joué l'orgue un peu comme le clavecin et beaucoup de répertoires qui, si on n'est pas indiqué, on dit tout de suite c'est musique pour le clavecin, a été quand même musique écrite souvent pour l'orgue. C'est un peu le cas de cette concerto que j'ai joué, qui je trouve, on doit écouter pour écouter que ça sonne bien sur l'orgue. Si on regarde sur les papiers, on pense que c'est musique pour le clavecin.
Et c'est vrai, dans une des préfaces des éditions des concertis de Haydn, la personne écrit que peut-être Haydn avait marqué en sous-titre pour clavecin parce que la partition allait mieux se vendre, parce que les gens jouaient plus du clavecin, et donc c'était finalement une raison purement économique, mais que finalement à cette époque-là, on pouvait très bien intervertir tous les types de claviers, que ce soit l'orgue, le clavecin. Finalement, c'était une musique qui pouvait très bien aller à tous ces instruments.
C'est comme ça, et c'est intéressant d'un point de vue musicologique, qu'on voit dans le concerto en ré, qui, quand même, il évite toujours les notes plus aiguës qu'il a eues sur le clavecin, mais ils ne sont pas là sur l'orgue, et c'est évidemment parce qu'il a composé la pièce sous l'orgue où cette note manquait. Et alors, dans le tour mélodique, dans la partie plus aiguë de clavier, il fait toujours des changements pour éviter de passer le limite de le clavier de l'orgue.
Mais alors, est-ce que vous iriez plus loin comme certains organistes qui ont enregistré des sonates entre guillemets traditionnellement pour piano à l'orgue?
Je trouve c'est possible quand même, je trouve qu'il y a une chose qui ça devient plus et plus importante de cette période, c'est la dynamique. Et alors, avec l'orchestre et l'orgue, ça reste quand même la dynamique, parce que l'orchestre fait la dynamique. Si on joue que de l'orgue, parfois, je trouve la compétition avec les pianos, on perd. Et j'espère que si on écoute le disque qu'on a fait, on peut pas dire, ah, mais c'est presque plus belle qu'un concerto pour
Oui.
piano, parce que l'orgue, c'est très beau.
Après avoir écouté deux disques de Handel et Haydn, donc pour le label Passacaille, nous passons maintenant à Jean-Sébastien Bach et vous venez d'écouter le choral Schmückedich au Liebeseel, un disque également Passacaille enregistré par Lorenzo Guglielmi. Alors Lorenzo Guglielmi, parlez-nous justement de votre instrument, l'instrument de San Simpliciano, parce que pour nos auditeurs, ils se disent, tiens, en Italie, construire un instrument d'esthétique baroque allemande, mais que se passe-t-il ?
Ah oui, l'histoire de San Simpliciano, c'est très particulier, a été dans 1945, l'anniversaire de Bach, que la ville de Milan a décidé de faire un instrument pour la musique de Bach à Milan. Et c'est-à-dire, on n'a pas dit on fait un instrument à San Simpliciano, on a dit on fait un instrument pour la ville. Et j'ai été dans les comités pour construire cet orgue. Et on a tout d'abord cherché un facteur pour faire cet instrument. Et après, on a choisi Jürgen Arendt, cet facteur allemand très important. Et après, on a cherché l'église. Et je trouve l'église, c'est aussi une église magnifique. C'est une des églises plus vieilles de l'Italie. C'est un basilique fait par Saint Ambrosius dans le 4e siècle. Et avec une acoustique magnifique, il n'y a pas eu un orgue. Et alors, on a mis sous les portails cet orgue, qui c'est, je trouve aussi très joli à voir, très un peu, comment dire, simple, quand même, avec un rouge positif, avec les tourelles de la pédale, et avec une esthétique allemande. Sauf qu'on peut dire, c'est pas un orgue, excusez-moi, barbare. Il a quand même une douceur et une transparence qui ça correspond aussi à le lieu italienne et à l'architecture. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé cet orgue-là. J'ai fait des enregistrations pour moi très importantes dans ma vie avec Harmonia Mundi Deutsch. Et le dernier enregistrement que j'ai fait et qui est sorti il y a une semaine, c'est tout nouveau, c'est son cette Dusit chorale de Leipzig. Et c'est un travail que j'ai beaucoup, comment dire, réfléchi avant de faire, parce que je trouve son un chef d'œuvre pour un organiste. Il arrive un moment, c'est toujours qu'on pensait trop tôt pour enregistrer. Oui. Maintenant, c'est pour moi arrivé le moment que j'ai dit bon, je suis prêt de faire ça. Je trouve quand même qu'il n'est pas un orgue historique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour la musique de Bach. Il y a le tempérament, il y a aussi le diapason, c'est un demi-ton plus haut que le diapason moderne, c'est comme l'orgue que Bach a joué. Il y a une mécanique si sublime qu'on peut vraiment tout faire avec légèreté, avec clarité, avec contrôle. Et j'ai vraiment dit dans cette registration tout ce que je veux dire avec la musique d'orgue, qui je pense est une musique où il faut vraiment parler avec les notes. Il faut donner à chaque note son consonne parce que tout soit clair. Et cette musique, c'est la musique, je trouve, la plus incroyable parce que c'est Bach transcendante, mais pas encore si forte, je voudrais dire, objective et presque abstraite comme dans la troisième partie de Klavierübung. C'est un Bach humain qui sait parler à chaque personne. Et alors, je pense qu'il aussi a un peu son simple, qu'il n'y a pas de connaissances dans le monde de l'orgue. On peut écouter des chorales comme Schmückedich au Liebeseel et être, on dit, bougé dans le profond, dire je veux oui. être, on peut dire, transcendante comme cette musique-là.
Alors tous nos auditeurs ont bien compris que vous étiez complètement passionné par Bach. Vous avez donné en concert, si je ne me trompe pas, déjà l'intégrale à San Simpliciano.
Oui, quand l'orgue est arrivé, après le grand, comment dit, le grand fête de l'inauguration, où il y a eu 10 organistes, Gustave Léonard, Radulescu, tous les grands organistes ont joué là. Après, j'ai commencé à jouer l'ouvre complète de Bach, mais pas dans la façon de concert, sont bien dans la liturgie, c'est-à-dire dans une messe spéciale qui était tous les troisièmes dimanches du mois, où on a eu un demi-heure avant la messe et pendant la messe encore de la musique d'orgue. Moi-même, je suis toujours contente d'écouter la musique de Bach intégrée dans la liturgie. Je trouve que c'est sa vraie place. Je peux dire, excuse-moi, sans applause, sans se montrer, comme c'est dans l'ordre de San Siviciano, on est dedans de l'orgue, il y a un positif de do. Et c'est la musique qui parle, et ça parle en langue qui n'est pas en langue de spectacle, c'est en langue beaucoup plus profonde.
Alors, vous êtes également professeur à la Scola Cantorum de Bâle, où vous enseignez. Alors, quelle est la place de Bach pour vous en tant qu'organiste, mais également en tant que pédagogue au niveau des étudiants de la Scola?
Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire que pour tous les organistes, la figure de Bach, c'est central. Je pense souvent, dans la musique de Bach, on ne peut pas dire c'est pas l'imitation de la musique de clavier, c'est pas l'imitation de la musique symphonique, c'est pas l'imitation de la musique de violon, c'est vraiment musique d'orgue. Et je pense que c'est très difficile à penser à un prélude et fugue écrit par Bach à l'orgue, transcrivé pour un autre instrument. Et c'est une chose centrale, je pense, aussi dans la formation des organistes. Quand même à Bâle, qui c'est une école pour la musique de Renaissance baroque, Bach, quand même, c'est toujours présent. Je cherche toujours pour les élèves de dire, bon, cet semestre, il y a un sujet, par exemple, ce semestre passé, le sujet a été la musique française classique. Mais à côté de ça, il y a toujours Bach. Alors, oui. Musique italienne et Bach, musique française et Bach, comme ça. Et aussi, d'un point de vue technique, je trouve... si on ne peut pas jouer Bach, on ne peut pas jouer rien, excusez-moi, c'est
oui, tout à
très,
fait.
Très fondamental.
d'entendre une petite surprise que Lorenzo Guelmi nous a emmenée. Il s'agit de son dernier projet. Alors, pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, alors aussi ça a été une registration. Ça, pas chez Passacaï, mais chez Winter et Winter, c'est un éditeur allemand où j'ai enregistré d'autres choses, surtout avec mon frère. Et aussi, ce travail, c'est autour de Bach. Et c'est avec mon frère et son ensemble de viol de gambe. Il a un quatuor de viol de gambe, il sonne parlante. Et j'ai joué un instrument particulier, que c'est à moi, que j'ai fait faire aussi pour ma passion pour Bach. C'est un copie d'une forte piano de Gottfried Silbermann. L'original s'est fait dans 1744. Et c'est un instrument que Bach a joué à Berlin pendant la visite à Friedrich de Prusse, mais qui on pense plus en plus que Bach a aussi possédé dans les dernières années de sa vie. Et qu'est-ce qu'il a travaillé dans les dernières années de sa vie? Il a travaillé à Die Kunst der Fuge, l'art de la fugue. Alors on a enregistré l'art de la fugue avec l'équateur de viol. C'est un hommage à la tradition ancienne, comme l'art de la fugue, c'est un hommage à la tradition palestinienne. Et avec les pianos Silbermann, c'est un hommage au futur. Et c'est, je trouve, la Kunst der Fuge, l'art de la fugue, c'est un, si on peut dire, un de travail de Bach qui a eu le plus grand futur. C'est un travail qui a impressionné compositeurs comme Webern, comme aussi, en effet, dans le romantisme, il y a cette révérence vers l'art de la fugue. Et alors, on va écouter un contrapoint, peut-être pas le premier, qui je vais laisser écouter ça dans le disque qui va sortir. Si vous aimeriez acheter ça, c'est Winter et Winter. Mais un contrapoint qui est joué avec le piano, c'est le numéro 9, avec un deuxième sujet. Et là, on peut écouter cet instrument très particulier. Il n'a rien à faire avec les pianos viennois, qui c'est une sonorité beaucoup plus brillante, plus mondaine. C'est un instrument, le piano Silbermann, je trouve beaucoup plus organiste aussi le toucher. C'est un toucher beaucoup plus proche à cette de l'orgue. Le toucher, c'est pas léger, parce qu'il a déjà eu le double échappement, qui après les viennois ont abandonné, parce que c'est un effet très compliqué à régler. C'est un instrument qui je prends beaucoup de temps à tenir bien en ordre, mais je trouve qu'il donne des couleurs dans la polyphonie qui sont vraiment incroyables.
Alors, vous savez que nous sommes ici dans une émission consacrée aux orgues d'Alsace. Nous n'avons pas encore parlé du tout. Nous sommes allés très loin, Handel, Haydn, l'Italie. Et petite question traditionnelle, pour vous, que représentent les orgues d'Alsace?
Ah bon, j'ai beaucoup de souvenirs de les orgues d'Alsace. Quand moi-même, j'ai aussi étudié à Bâle, et je me rappelle, je suis venu à Strasbourg, j'ai visité Saint-Thomas, et pour moi, ça a été un concept très fort. Et je dois dire aussi, j'ai joué il y a 2 années à Saint-Thomas, et là, j'étais impressionné aussi d'une autre orgue, c'est le petit orgue de chœur, cet orgue qu'on appelle de Albert Schweitzer. Et là, j'ai joué de Brahms, et j'ai trouvé, ah, mais c'est magnifique d'avoir dans le même lieu deux choses si différentes, mais quand même deux choses si précieuses. Et après, je trouve l'Alsace, c'est aussi un lieu de rencontre, parce que c'est un lieu où on rencontre la culture allemande, française, aussi les orgues de Silbermann sont vraiment un orgue de rencontre. Je trouve que ce sont des orgues qui, j'ai après reconnu, qui ont donné beaucoup d'inspiration à des facteurs modernes, parce qu'on peut dire que ce sont des orgues un peu éclectiques dans l'attitude de répertoire, où on peut bien jouer de la musique française, mais quand même on peut bien jouer de Bach. Et je trouve tout connaître les racines de la culture qui se passe maintenant par toute l'Europe, c'est toujours intéressant. Je conseille quand même de venir en Alsace à voir les instruments qui sont là.
Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup Lorenzo Guelmi d'être venu dans les studios d'Accent 4. Nous vous souhaitons plein de grands projets discographiques dont vous pourrez bien sûr revenir parler ici même à Strasbourg. Et chers auditeurs, nous vous disons à très bientôt.
À très bientôt, merci, grazie, arrivederci.